Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 19 avril 2008, il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
et maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV.
Suivi de...
Ça c'est du sport, les joueurs Elias à Paris, à ce qui paraît ils ont le PSG a gagné un match.
Hein. Oh, et ensuite...
Et bah 15h c'est du reggae avec Poupa Christopher in the place Arma Farai. 17h c'est la bonne viande, 18h Big Bang, 19h Happy Hour, 20h la CTO Experience, 21h 39 Lob, 23h le potager. J'ai cru que j'allais pas y arriver, ça m'apprendra à faire des big up à Poupa Christopher in the place, la 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 la.
Ah, ça démarre fort. Hein. Bonjour Xavier.
Bonjour Thomas.
Bonjour du sport.
Fils installé.
Voilà, juste pour vous signaler une chose. Pour une fois, on a fait très fort. On a réussi à mettre une des chroniques sur le site de la radio avant l'émission. Mais ça, on en reparlera après un bon vieux classique reggae rock'n'roll.
Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.
Fat Boy Slim,
Soul Brother, right about now.
You're not from Brighton, you?
Brother, check it out now.
Yo, yo.
The Funk Soul Brother, right about now.
Back in the 90s, Rockefeller Skunk, you've come a long way, baby.
Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now.
About now,
Funk Soul Brother.
Right about now,
Funk Soul.
Non, tu descends de la table. Non, c'est indécent. Même sans pantalon, même sans... Non, c'est indécent. Tu descends de suite, merci. C'est pas vrai. Il était pas là la semaine dernière, il était parti vers de nouvelles aventures.
Si, j'étais là.
Je parlais du micro vert, pas du rouge.
Ah bon.
Thomas, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je crois que tu avais oublié de parler d'un élément qui était important et essentiel. Merde.
Ça, tu cherches là ?
Donc exactement, c'est le centenaire de l'animation français. Parce que c'est en avril 1908 qui a été produit le premier dessin animé en France.
Ah,
après Richard Rudko et tous les autres. Donc j'ai son nom d'ailleurs, c'est le premier cycle qu'il fait, c'est à la Cinémathèque de Toulouse en ce moment. Et
Émile Cole,
voilà.
Donc il a donné son nom à l'une des plus prestigieuses écoles de graphisme en France.
Parfaitement, il était dessinateur de presse à l'origine, si je me trompe. Enfin maintenant, il faudrait se méfier parce qu'on a de quoi vérifier tous les éléments. On a décidé de faire entrer une révolution dans notre émission, c'est-à-dire l'informatique. C'est vrai qu'on a été la première émission francophone de radio podcastée, mais quand même on n'était pas allé aussi loin que de mettre les chroniques des émissions avant leur diffusion directe sur le site de la radio, www.radio-fmr.net. On va rénover aussi le site du supplément week-end. Vous tapez supplément week-end dans Google, on arrive en tout premier. J'en suis pas mécontent de celle-là, supplément week-end, radio FMR. On y est direct, mais en plus on a la Wikipédia, IMDB et Série Club sous la main. Du sport n'a qu'à bien se tenir maintenant quand il citera les rôles des quatrièmes plans dans les cinquièmes saisons des séries à la main.
On pourra te fesser en direct et pas passer par les commentaires sur le site.
C'est le problème, le clavier est un peu petit quand même. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui nous allons parler de bandes dessinées, de comics, matinées, de épices pakistanaises. Nous allons aussi manger du tofu, se plein la gueule, faire les mongols, et je ne sais pas pour ce qui est de la rubrique télévision, mais ça ne saurait être pire. heureusement, ce week-end, si vous ne restez pas vissé devant vos écrans ou que vous nous écoutez sur votre baladeur, en podcast, etc. Que sais-je ? Non, un podcast sera peut-être un peu tard. Mais sachez donc que si vous êtes sur Toulouse, c'est l'occasion de sortir. Puisqu'il y a donc, on les a reçus l'an dernier pour la deuxième édition. Là, on en est à la troisième édition du festival Bulle d'Ombre. Donc, on avait déjà annoncé le programme la semaine dernière. Ils sont donc cette fois-ci à la salle des fêtes de l'Imerac. C'est rue Xavier Darras. C'est une toute nouvelle salle des fêtes qui a été inaugurée avant le départ de notre maire adoré, dont tout le monde a oublié son nom. Douste Blasi, non? Non, j'ai oublié.
Baudis? Je sais plus.
Je sais plus. Lequel, le père ou le fils? Tout ça pour vous dire donc que c'est rue Xavier Darras, c'est entre la côte pavée et la terrasse, c'est desservi par les lignes de bus 23 ou 37. Et vous y retrouverez donc des dessinateurs et des coloristes, puisque c'est ce qu'ils avaient expliqué l'an dernier quand ils étaient venus dans cette émission, qu'ils souhaitaient mettre en avant-plan les coloristes. Qui font aussi pas mal quand même pour les albums. Des fois, ils les sauvent littéralement. Et voilà, je me fais piéger par le lecteur. On y retrouvera Diane Brandt, qui sont toutes les deux coloristes. Philippe Brigel, qui est dessinateur de Jet Can, c'est aux éditions Filia. Ced, qui fait un blog qui s'appelle Ced Univers et qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Conte à dormir Deb, c'est chez Macaca Édition. Maintenant oui. Qu'il est célèbre, on peut le recevoir.
Oui.
Olivier Daugé pour Ciel en ruine chez Paquet. Dave pour qui dessine les aventures de Gofterdom Studio. Donc c'est forcément chez Soleil, hein, puisque Gofterdom Studio, ceux qui font l'Enfos Mag. Qui fait aussi Phil Bustar chez Soleil, les Garnimaux, mais il a aussi participé à plusieurs collectifs. Nicolas Demar qui fait Merlin, la quête de l'épée, c'est chez Soleil. Le territoire est dessiné par SP, donc lui aussi il est là. Guillaume Lapert pour les chroniques de Magon et Éther. Joseph Lacroix pour l'encyclopédie du mal chez Soleil et Éther. Olivier Marin pour Michel, c'est chez Paquet. Lucien Roulin qui signe l'affiche du festival Bulle d'Ombre et qui avait fait une série qui s'appelait Ombre chez Glénat. C'était dans la collection Graphica, si je me trompe. Il fait actuellement Backwards et les Fleury Nada. Il a aussi participé à un album du Décalogue Je vais y arriver, bon tant pis. Il avait participé à un des albums du Décalogue et il fait aussi la série Saskia des Vagues chez Dargo. Et Yigael qui co-signe Egovox chez Aquileos et participe aussi à Ether chez Delcourt. Notez qu'il y a en plus des séances de dédicaces des fanzines qui sont présents, puisqu'on y retrouvera l'expérience Regroupo Kiss, le regroupement de croquis de la déchaînette team. Il y aura le Delirium Tremens, une initiation au jeu de rôle menée par l'association Jeux de Troll, une démonstration de palette graphique, donc de colorisation par Jérôme Marc, qui est coloriste de Livresse et Fantômes, et Suzanne Cazenave, ainsi que d'autres animations et plein d'autres choses, avec ce soir à 19h en concert ZZ Band. Donc tout ça, c'est au festival Bulle d'Ombre, c'est à la salle des fêtes de l'Imerac, rue Xavier Darras, c'est entre la côte pavée et la terrasse. Pour y aller, bus ligne 23, c'est à l'arrêt Firmis, ou ligne 37, arrêt d'Arras. Sinon, je crois qu'il y a un parking ouvert pas très loin. Que dire de plus? Sinon, que l'entrée est de 3€ pour un jour, 5 pour le forfait de jour. C'est 2€ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 11 ans. Donc, voilà, c'est un petit festival. Et mince, ça tombe mal. Il fait beau dehors. Quel dommage. Soyons méchants. We'll be right back. midi, 14 minutes 52 secondes et 976 millièmes sur l'horloge atomique du studio. On précise à 53 millièmes de seconde près. Hein.
On est fort. On est fort.
Ouais. Continuons. Non, microsecondes, excuse-moi. Ça apprendra à mal lire dans les commandes. On va entamer les sorties bande dessinée. On va commencer avec une idée de Weston et Nicolas Cage sur un scénario de Mick Carey et dessin de Dan Roberts et Rapiet. Voodoo Child, c'est une histoire complète en deux tomes. Le premier tome vient de sortir chez l'éditeur Fusion Comics, qui est une collaboration entre Panini et Soleil, et édité originellement chez Virgin Comics. Un petit peu d'histoire dans cette grande et jeune nation que sont les États-Unis. La tension est grande entre les États du Nord, qui cherchent une main-d'œuvre pas chère et des débouchés commerciaux, et ceux du Sud, qui pratiquent l'esclavagisme et qui donc ont une manœuvre gratuite et des débouchés, mais un petit peu loin. Le président Lincoln, tout juste élu, pourrait bien mettre le feu aux poudres, puisqu'il a dit « Oh ben, l'esclavagisme est une connerie, on va l'abolir ». Un notable de l'état de Louisiane, pro-abolitionniste, se fait assassiner, ainsi que toute sa famille, par une émeute de propriétaires blancs. Son fils, Gabriel, est à deux doigts de mourir, si un étrange rituel ne l'avait pas sauvé de l'étreinte glaçante du baron samedi. Rituel initié par le prêtre sans blâme, mais incomplet. Revient en télévivant, Gabriel, fantôme au corps physique, rappelé dans notre réalité suite à une messe noire, par un pauvre homme révolté. Ce dernier s'empresse... je parle de Gabriel, s'empresse de chercher Brussard, celui qui a tué ses parents. Mais 150 années ont passé, car nous sommes toujours à la Nouvelle-Orléans, mais en 2005, 4 mois après le passage de l'ouragan Katrina. Le centre-ville est dévasté, les habitants sont dans des camps de réfugiés, la ville est encore dans un chaos indescriptible, et donc un zombie maintenu en vie grâce à un rituel vaudou qui s'attaque au décident du meurtrier de ses parents. Bad karma héréditaire oblige, sa cible est aussi le chef de la pègre qui a mis en coupe réglée la Louisiane. C'est aussi l'un des suspects de la police sur la disparition de nombreuses jeunes filles noires. L'inspecteur qui est dessus risque bien d'avoir de sacrées surprises finalement. On songe à Spawn, une trame de départ comparable, mais surtout brio du dessinateur Dan Hubert Iriapiet, je ne sais pas si je prononce bien, impressionnant dans ses mises en scène et ses ambiances. Après, on se demande quelle est la part du scénariste. Mick Carey, créateur de Lucifer, est salué par son travail sur Hellblazer. Ou qui des deux producteurs, entre guillemets, de cette histoire? L'acteur ou son fils de 16 ans? Note que le fils le plus jeune, et donc frère de Weston, s'appelle Kal-El, donc Nicolas Cage, bien sûr, et probablement un fan sincère de comics. Il s'est juste compromis dans une bouse intersidérale qui s'appelle Ghost Rider. Nota bene, la BD Ghost Rider n'est pas géniale non plus. Alors, ça se comprend un peu. Réaction de fan. Donc, je vous avais chroniqué la semaine dernière Ramayan 3392 et Thomas, vous avez parlé de Seven Brothers, provenant là aussi de Virgin Comics, dans la collection Director's Cut, qui consiste en fait à faire participer des réalisateurs prestigieux, Shekhar Kapoor pour Ramayan 3392 et John Woo pour Seven Brothers, par exemple, à des comics épelés par des scénaristes béton et dessinés par des Indiens. Non, je parle pas d'Amérindiens, je parle d'habitants du pays, l'Inde, le sous-continent, vous voyez. J'ai oublié de dire que l'éditeur Virgin Comics est en fait indien et que c'est une joint venture entre le groupe de Richard Branson, propriétaire de la marque Virgin, ça va du Coca-Cola jusqu'à la chaîne qui diffuse Next, ou à la radio de merde, et l'éditeur indien Gotham Comics, qui est le traducteur de comics mainstream pour toute l'Asie du Sud. Il est responsable de la version indienne de Spider-Man. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a un Peter Parker qui vit en Inde, etc. Il devient Spider-Man parce qu'il est piqué par une araignée qui a bouffé un peu trop de curry. Enfin bon, c'est mainstream, voilà. C'est en fait Gotham.
Qu'est-ce qui danse avec Dr Octopus?
C'est la question qu'on se pose. C'est,
certainement.
Surtout qu'il a le sari et tout, hein, donc c'est pas impossible. Sur Gotham Comics, c'est un peu l'équivalent de Panini Comics pour l'Europe, si vous préférez. Donc ils ont créé une collaboration qui s'appelle Virgin Comics. Le but de ce nouvel éditeur est de développer et rendre mature les productions de bandes dessinées indiennes, qui, il est vrai, sont légèrement, complètement envahies par la production américaine. Et qui commence un petit peu à se faire bouffer par les mangas. Donc merde, vite, il faut peut-être qu'on crée quelque chose d'original, hein, de notre côté. Et comme on a une forte culture cinéma dans notre pays, eh ben on va proposer à des gens qui savent ce que c'est que le comics y participer. Bon, on n'a pas forcément été super bien tendre avec Seven Brothers. Ramayan 3392 avait quelque chose d'intéressant, mais semblait un peu court, puisque c'est en fait une adaptation science-fiction du Ramayana, qui est, on en a parlé la semaine dernière, vous pouvez réécouter sur le site de l'émission supplémentweekend.tk, cherchez supplément week-end, voilà, ou allez sur le site de la radio FMR, radio-fmr.net, et vous cliquez direct sur l'émission la semaine dernière.
Oui, donc le Ramayana.
Le Ramayana, c'est un peu, ça fait partie des grands écrits sagatesques indiens, tout comme le Mahabharata, et donc résumé, on va dire, de manière un peu courte en bande dessinée, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc après tout, ben pourquoi pas. En tout cas, c'est une bonne surprise pour Voodoo Child, tome 1 sur 2. Comme quoi, Weston et Nicolas Cage ont peut-être eu une bonne idée. En tout cas, elle a été bien rattrapée par Mike Carey et super bien dessinée par Dan Ruben Eriapet. Retenez bien son nom, même si je l'écorche, parce que quand même, il est pas mauvais. Voilà, c'est sorti en France chez Fusion Comics.
Bah, tu sais, dans la série, au cinéma, les gars connus qui font des scénarios avec leur fils, on pourrait citer aussi Robert Rodriguez qui a scénarisé avec son gamin, je sais plus comment il est appelé d'ailleurs, Super Racer ou je sais pas quoi, c'est son vrai nom, hein, au gamin, un truc genre, dans le genre, ils ont scénarisé ensemble La Vagueur, les Shark Boy,
Ouais.
Et le pire, c'est qu'il a fait ça juste après Sin City. Les mecs, ouais, Robert Rodriguez, ah non, merde, qu'est-ce qu'il nous fout là.
Attends, je cherche le nom tant qu'on y est. Non, en premier.
Je cherche Shark Boy et La Vagueur. La Vagueur, le cherche, et Rodriguez, tu veux voir. Attention, recherche Wikipédia en direct.
Non, c'est pas évident là. Non, Grindhouse, non, il y a peu d'éléments sur la version française. Bon, ok. Bah oui, forcément, c'est un peu c'est gossip, donc ça n'est pas franchement intéressant quoi. Donc voilà, on va peut-être enchaîner par autre chose. Les micros sont encore ouverts. Le Sablier tome 1 vient de sortir chez Kana. C'est une shoujo manga de Hinako Ashihara. Donc c'est vraiment la bande dessinée pour filles, pour adolescentes, pure et dure.
Shoujo.
Non.
C'est shonen.
C'est shoujo. C'est shoujo trop kawaii.
Oui, voilà, c'est ça.
Avec plein de i derrière. Voilà. Anne est une jeune adolescente qui a dû quitter Tokyo à son plus grand regret. Elle est allée vivre chez ses grands-parents avec sa mère, fraîchement divorcée. Le mari s'étant un petit peu ruiné et tout ça, enfin bon. Loin de ce qui faisait sa vie, de ce qu'elle a connu, de ses amis et de ses habitudes, dans un tout petit village de montagne, eh ben elle s'y morfond. Anne découvrira assez tôt pourquoi sa mère se sentait prisonnière de son village. Ses grands-parents mènent la vie dure à sa maman qui était déjà régulièrement malade pour cause de surmenage. Anne redécouvrira sa mère par une de ses amies d'enfance, par les lieux qu'elle fréquentait, mais aussi par les souhaits qu'elle accrochait au temple. Anne apprendra aussi prématurément à devenir adulte quand sa mère mourra. Heureusement, elle pourra se raccrocher sur de jeunes garçons de son âge qui lui donneront une réelle raison de vivre. Comme Daigo, le voisin au bras costaud et connaissant aussi bien la nature. Sauf que les petits animaux mignons dans la forêt, lui, il les tue pour les manger. C'est pas bien. C'est pas quelque chose à faire devant une fragile jeune fille de la ville tout juste orpheline. Tout tourne en fait autour d'un sablier. Un sablier symbolique du temps, des époques passées, présentes et futures. Il y a aussi la brutale séparation entre Tokyo, la mégapole la plus démesurée par excellence, et ce petit village isolé dans la montagne. Tout le monde se connaît. entre le total anonymat de la foule et l'esprit fortement communautaire des petits villages. Et ce qu'amène l'homme de la vie entre deux générations. La promesse de fuir vers l'urbanité pour la mère. Le soutien moral pour rentrer dans l'âge adulte pour la jeune fille. C'est du shoujo pur et dur. Pardon, c'est du shoujo tendre et juteux et mignon et tout doux avec de grands yeux qui brillent et des grands instants de temps suspendus.
Voilà, et des dégradés de trames partout avec des arcs-en-ciel et des étoiles partout. Et
merci Manga Studio. Le sablier tome 1 donc vient de sortir chez Kana dans la collection Kana Shoujo. C'est de Hinako Ashihara. Ça raconte en fait une certaine vie quotidienne et tout ça. Ça ressemble ni plus ni moins à de la sitcom, quoi. Voilà. Entre nous, moi je trouve que ça se lit. Honnêtement, j'ai pris le temps de le lire et finalement, oui, ça le fait. Voilà.
Mais ce serait bien pour
Soyons pas méchants.
Ce serait bien pour les shoujo de faire commenter par nos filles. Par nos nanas, je veux dire. Chantal et Sabrina, qu'est-ce que vous foutez? On a du shoujo à chroniquer, bordel.
Ta gueule et fais-moi un G sous un des 20 réussir cette chronique, bordel de Dieu.
Non, c'est bordel de cul.
Bordel de cul.
On va changer de registre avec Dofus tome 8.
Ça va charcler.
Il est là.
Voilà du sang.
Dofus tome 8, ce nouveau tome s'appelle Rushu Hour par Ancestral Z.
Rush Hour.
Par Ancestral Z, Bruno Waro, Mojo Jojo et Tot, et c'est édité chez Ankama Edition. Alors on présente plus Dofus, on vous en a déjà parlé ici, qui est à l'origine un jeu MMORPG d'Ankama Games, y a également le jeu Dofus Arena, il y aura bientôt le jeu Wakfu, il y a bientôt la série animée Wakfu sur France Télévisions, à ne pas rater. Et en BD, on a plein de BD tirés de l'univers de base, mais qui sont totalement indépendantes, qui sont, y a Pandala, il y a Dofus Arena, Dofus Monster, dont on avait déjà chroniqué le tome 1 ici, et le tome 2 sera prochainement chroniqué d'ailleurs, et où chaque tome de Dofus Monster est centré sur un monstre en particulier, et donc on a la saga de manga Dofus qui en est déjà à 8 tomes. Alors au scénario, c'est Tot, c'est le grand Manitou créatif d'Ankama,
c'est le patron.
Ouais, c'est ça, c'est le patron, c'est celui qui jette les dossiers d'Angoulême à la poubelle. Au dessin, on a Ancestral Z
et notamment d'interview.
Voilà. Au dessin, nous avons Ancestral Z et Mojo Jojo. Donc évidemment, on en a déjà parlé ici. Ce sont les auteurs de Kaoland, hein, la BD complètement barrée, et aidé également par Bruno Waro. Alors qui fait quoi? Je crois qu'Ancestral Z fait les crayonnés, il y en a un autre qui s'occupe de l'ancrage, l'autre s'occupe des trames et des décors. Donc c'est vraiment un travail de studio. Ils pondent plusieurs planches par jour. C'est vraiment du travail acharné.
Ça dans ta gueule.
Voilà. Alors moi franchement je connais pas du tout le jeu, j'ai jamais joué à Dofus et c'est vrai que j'avais bien kiffé les productions d'Ankama, mais c'était Kaoland et Mutafukaze et c'était pas vraiment en rapport avec l'univers de Dofus. On avait chroniqué aussi Dofus Monster, c'était bien mais gentillé, et là je m'attendais à un truc de ce genre là et pas du tout. En fait c'est une excellente surprise, c'est une claque dans la gueule franchement, la saga Dofus, donc ça la qualité des mangas, puisqu'on peut s'attacher aux personnages au fil des albums, hein, au fil des tomes. Scénario est super ambitieux, alors ça peut aller du second degré avec vous allez vous amuser à reconnaître les gags et tout, et vous pouvez aussi lire ça uniquement au premier degré en vous prenant le passant pour tel personnage et tout, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi il y a du gore de chez gore, et il y a pas mal d'allusions sexuelles aussi,
donc
au premier abord le trait peut sembler un peu cartoon et caricatural, avec on dirait que les personnages sont tous en caoutchouc et tout, mais le fond du scénario c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc c'est l'univers d'Heroic Fantasy. Alors il y a le bourrin de base dont les deux héros se sont Artis, c'est un petit berger Feka. Son grand-père Cry a été fait prisonnier par l'infâme Will Smith, qui était l'ancien élève qui a mal tourné. On a Vald, c'est le guerrier Yob bourrin qui a pas grand-chose dans la tête et qui ne pense qu'à bourriner la gueule des autres, enfin de ses ennemis. On a Lee Crouch del Toro. Ça, c'est un sadida qui dort, mais il sait jamais où il se réveille parce qu'il a la faculté de se téléporter quand il y a quelque chose d'intéressant et de vraiment crucial qui se passe dans le monde. On a aussi Bilby, la gelée qui parle, en espèce d'apéricube, dont le peuple fut sauvé par Artie Ewald d'une fornication ininterrompue provoquée par le maléfice de trois sœurs maléfiques dont le pouvoir principal est de faire une danse amoureuse à trois. Et en fait, pour faire la danse amoureuse, elle chante le générique français des Cat Size.
Je sais pas savoir. Je voilà. sens que je vais te l'emprunter.
Ah, oui. donc ça, bon, vous l'aurez compris, c'est un peu le même humour que Saint High School, hein, ultra référencé, etc. On a de nombreuses références de potage. Donc, comme André, on croise sans gros cul qui passe son temps à bouffer. On a une course de Drago Kart, évidemment, qui est grosse référence à Mario Kart pendant trois tomes, où on a Toad qui est le clone de Toad, mais version Toad le scénariste. On a aussi Ancestar. Qui est le pendant et qui est aussi un pilote de véhicule, de cartes.
On a les high scores et les codes amis.
Non.
Puisque non. Le nouveau Mario Kart, on peut jouer en réseau.
Tout à fait, oui. Mais ils sont pas dedans. Il y a la princesse Peach, Satanus et Diabolo pour les amateurs des fous du volant. On a, la course est supervisée par Omar Chétif, la grevette. Donc le titre du tome, ça s'appelle Chétif fais-moi peur. Alors c'est que des gags comme ça. Donc là dans le tome 8 évidemment, alors c'est assez particulier de parler du tome 8 parce que si vous avez pas lu les 7 premiers, il y a pas mal de choses, des trucs qu'il faut pas du tout révéler qui se passent, notamment sur l'apparition de certains personnages qui sont dans le 8, comment ils sont arrivés là et tout, je vais pas trop en parler. Sachez juste qu'il y a l'apparition de deux méchants qui font vachement peur, c'est Karid et Sylar.
Pas mal.
Voilà. Et donc ils apparaissent parce que les méchants, le monde des méchants s'appelle le Brakmar et ils se font un peu péter la gueule par un dragon géant godzillesque et Gultar le barbare. Et donc ce sont deux créatures qui apparaissent deux tomes avant je crois et qui sont assez importantes dans l'histoire, mais on vous en dira pas plus.
C'est l'alerte, on a passé la pause pub.
Et en fait le tome, je disais, il est construit sur un gigantesque flashback, car c'est le principal atout de Toth, c'est qu'ils soient les pires enculés ou les héros, en fait, à un moment donné il prend le temps de revenir en arrière pour dire qu'est-ce qui s'est passé avant. Et c'est là que tu te dis que tu relativises, parce que en fait quand il y a des méchants qui se font péter la gueule comme des moins que rien et tout, ils sont vraiment des ordures et tout, et quand tu vois leur enfance qui ont été persécutés et tout ça, tu dis ah merde, ah ouais,
pauvre
petit chat malade.
C'est un peu l'idée, je pense, qu'il voulait développer dans Wakfu, qui est le spin-off de Dofus, où il n'y a pas de PNJ. Donc, si vous voulez être le grand méchant du monde Wakfu, va falloir le mériter. Donc, ils introduisent bien, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, voilà, cette saga, je me suis un peu fait prier pour la lire. Puisque j'avais loupé les sept premiers tomes et franchement là voilà, c'est en une semaine j'ai tout dévoré. Sabrina est en au tome 4, elle dit oh putain ça tabasse sa race aussi. Voilà, c'est une excellente série. Alors le graphisme, il faut s'y faire hein, parce que bon voilà, je disais tout à l'heure, c'est très cartoon avec des cernes très épaisses, surtout que là en plus comme ils sont dans le tome 8 dans le monde des méchants Brakmar, donc c'est une utilisation de trame très 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 épaisse et condensée, donc c'est assez
ah ouais.
On va dire que c'est pas grossier mais parti pris graphique assez fort. Donc évidemment Rushu Hauer, donc c'est le nom du méchant. Rushu, c'est le tome qui a été avoué par le scénariste en préface, le tome le plus vulgaire puisqu'il arrête pas de dire bordel de cul, enfin que des insultes voilà graveleuses et tout. Ouais, vous allez pas me casser le derche et tout, je vais te pulvériser la tronche avant de m'essuyer après. Voilà, quoi, des trucs comme ça.
Finesse.
Alors cette saga, ça ben voilà, c'est une saga qu'on ne peut que vous conseiller. Tome 8 déjà apparu, Dofus tome 8, Rushu Hauer par Ancestral Z, Bruno Waro, Mojo Jojo et au scénario Toth, c'est édité chez Konkama.
Youpai, midi 33 minutes 47 secondes, je peux vous dire que ça s'excite derrière la régie et qu'ils vont finir par nous couper brutalement les...
Mercredi 23 avril à Terre Blanque.
Coucou, chocolat, paradis fiscaux.
L'assaut musical présente Knut.
Non, Knut.
Knut.
Avec aussi Seigneur Flores, Metal Hardcore Grind de Toulouse.
le metal hardcore instrumental de Tormenta from Bordeaux.
Nolentia Grindroll Toulouse.
Et notre fabuleux brutal one man band pétrifié. Paf, 8 euros, 5 euros pour les adhérents, 20h30, mercredi 23 avril, Terre Blanche, route de Muret à Saint-Lys.
Il y aura des places et des scuds à gagner en écoutant FMR 89.1. En rêver, Éphémère le fait. Radio Éphémère et The Ramirez organisent la nuit des Ramones au Bikini vendredi 20 juin. Pour participer, préparez 5 à 8 morceaux des Ramones, envoyez ou déposez une démo à Radio Éphémère ou en fichier son sur marie@radio-éphémère.net et n'oubliez pas votre contact. Il vous reste à ressortir votre vieux perf de la poussière, chausser vos converses pourries et vos lunettes rondes et à laisser pousser vos cheveux pour vous lancer. À gagner, un pack de crocs. Non, je rigole. Date limite des inscriptions, le 20 avril. Éphémère.
Enfoiré à la pub. Transsibérian Express vous est présenté en Dolby Mono sur Rand par Thomas.
Ouais, Mongol,
Lyopai.
Film de Sergei Bodrov avec Tadanobu Asano, Ong Lei-sun et Kulan Shulun. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Fin du 12e siècle, début du 13e. Après avoir été réduit en esclavage quasiment toute sa vie, Temujin unifie le peuple mongol et devient le redoutable chef de guerre Genghis Khan, bâtissant un empire s'étendant de l'Asie à l'Europe centrale. Alors, on va voir un film sur Genghis Khan, tu te dis, ça va, tabasser sa race. Eh ben, pas du tout, mais pas au niveau qualité, hein, je vous rassure, c'est au niveau des batailles, elles sont reléguées, on va dire, au second plan. Car le principe du film, c'est qu'on s'attache surtout à l'enfance de Temujin et aux conditions qui vont préparer son accession au statut de Genghis Khan, justement le grand khan de tout le peuple mongol unifié. Et le rôle-titre est interprété par Tadanobu Asano et ce nom vous dira peut-être quelque chose si vous êtes fan de cinéma japonais. Car il a joué le rôle-titre de Ichi the Killer de Takashi Miike, il a joué également dans Taboo, dans Zatoshi, c'est l'adversaire samouraï de Kitano. Et là, il joue pas du tout sur le registre de la rage ou l'obsession de la vengeance. On pourrait se dire, tiens, il a été emprisonné toute sa vie, et il va un peu chercher à se venger ensuite, avec toute une rage contenue qui va demander qu'à se déchaîner comme s'il était en berserk. Et en fait, pas du tout. Il incarne une force tranquille, un mec terriblement amoureux de sa femme, qui est en paix intérieure tout au long du film, qui joue juste l'impassibilité et qui va au fil de ses pérégrinations, ses statuts de servitude, il va s'échapper, il va être repris, il va s'échapper, il va être réduit en esclavage, il va être vendu, il va être emprisonné encore une fois, et on peut dire que la moitié du film il la passe en prison. En fait, tous ces moments où il va être brimé, etc., ce sont ces moments-là qui vont forger son caractère, qui vont le propulser un peu au-dessus de la mêlée, puisque c'est là qu'il va développer son sens de l'honneur, avec son père qui va être empoisonné sous ses yeux quand il était petit, il va se choisir sa femme alors qu'il avait seulement 9 ans et faire preuve de beaucoup de caractère, contrairement à... Ben justement, il va aller à l'encontre de son père qui lui prédestinait une femme de notre clan, etc. Et voilà, donc ce sont ces préceptes-là qui vont forger sa personnalité tout au long du film. Évidemment, si vous allez voir un film de Genghis Khan, je vous en parlais tout à l'heure, c'est pas pour C'est pas pour le fait qu'il soit humilié de façon conanesque pendant tout le film, c'est aussi pour les batailles. Bon, je vous rassure, il y en a quand même.
Et c'est sort un petit et peu d'exercice comme, physique, merde.
Voilà, et c'est comme dans l'Alexandre d'Oliver Stone, c'est-à-dire que les batailles sont là pour glorifier son statut de génie militaire, puisqu'ils vont les batailles sont là pour regarder comment il est intelligent, il va mettre à profit l'organisation géographique des lieux, tout ça. Et bon, les batailles, elles non seulement elles sont efficaces. Et c'est vrai que le film est pas très branché au niveau vengeance et tout, alors qu'il a tout pour se venger, ce mec. Et la vengeance, il en est question aussi, mais vers la fin, et surtout de façon elliptique, on la voit pas du tout. Et c'est juste le film qui dépeint un personnage qui est juste en paix avec lui-même et qui est passif, qui est voilà. C'est vraiment impressionnant à quel point le film en fait part dans une direction vers laquelle on ne s'attend pas. Et donc voilà, et donc les batailles, j'en parlais, elles sont aussi non seulement elles sont efficaces, mais aussi elles innovent aussi pas mal, puisqu'on a pas mal de caméras embarquées à bord d'un cheval, avec c'est comme si nous on tenait une lance ou si on brandissait le glaive dans des combats. Ces plans sont assez brefs, mais font plaisir, car moi personnellement j'avais jamais vu ça dans un film avec des chorégraphies avec la baston d'épée. Mais voilà, je disais que donc Genghis Khan, enfin Temujin, puisqu'il va prendre le nom de Genghis Khan à la fin du film, n'est pas du tout motivé par la vengeance, même si s'il doit massacrer, c'était avant tout pour unifier son peuple et pour sauver la nation mongole. Mais comme il le dit à un moment donné dans une voix off, je dois unifier les Mongols, même si pour cela je dois en exterminer la moitié. Donc c'est son précepte qui va pas changer. Et justement l'un des points clés du film, c'est justement quand il va éditer ses préceptes à ses soldats, aux gens qui vont le rejoindre. Donc c'est on ne massacre pas d'enfants ni de femmes, on ne trahit jamais son khan, on a un code d'honneur le plus pur possible, voilà. Et voilà, donc j'en parlais de Tadanobu Asano tout à l'heure, le rôle titre, donc je rappelle parce que Xavier était occupé à autre chose, c'est le mec qui joue Ichi the Killer.
Étonnant.
Ah oui, tout à fait.
Et faut dire aussi que quand il fait pas le débile avec des lames de rasoir partout, ça le change.
Et donc le mec qui joue, bon évidemment c'est la nana qui joue sa femme dans le film, elle est superbe et elle a vraiment une place très 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 importante dans le film, puisque c'est celle qui garantit la paix, sa paix intérieure et tout, et c'est vraiment très importante pour son équilibre. Et le film justement est un film sur la propre identité mongole de Temujin, comment il va vivre son identité mongole par rapport, puisqu'il y a beaucoup fait référence à ça dans le film. Il y a tout le monde qui dit tu sais tu connais pas les Mongols et tout, puis à un moment donné il dit oui mais moi je suis mongol aussi, et c'est comme ça que je vois mon identité. Et c'est un film sur ça. Et donc le mec qui joue son frère à un moment donné, qui va se retourner contre lui, etc., j'en dis pas plus, c'est un mec qui est rasé, qui a une boucle d'oreille assez rock'n'roll et tout, et puis c'est un mix entre une star du rock et voilà, un chef de gang urbain. Et c'est un mec, en sortant du film, je me dis tiens, mais il joue plutôt la hongkongaise, ce mec, c'est vraiment exubérant, qui est tout extériorisé et tout. Et en regardant sur internet ce matin, c'est pas étonnant. Donc il jouait dans Seven Swords de Tsuyar, qui était plutôt le grand spécialiste du mélange des genres, hein, on va dire. Donc voilà. Alors ce qu'on peut dire sur Mongol, c'est que bon voilà, on y va aussi pour les paysages somptueux, parce que au contraire de pas mal de films de baston avec des épées que j'ai chroniqué il y a pas longtemps, comme Pathfinder, etc. C'était des films qui étaient très au niveau de la post-production, très chargés graphiquement, avec très désaturés, contrastés, etc. Et là pas du tout. C'est vraiment un film brut de chez brut au niveau visuel, même si elle est un peu travaillée. Et c'est pour mettre en valeur les steppes mongoles, évidemment, à toute beauté. Et en plus les décors sont là pour justement accompagner la narration. Par exemple, il y a un moine qui va se sacrifier au cours d'un périple, et bien on va le voir marcher avec une caméra qui est à la verticale sur un sol qui se craquelle tellement il est sec. On va jamais le voir en train de transpirer ou chercher de l'eau, ce serait ridicule. Donc c'est juste pour illustrer qu'il va se dessécher au fil du périple. L'idylle amoureuse se fait dans des plaines verdoyantes, etc. Et c'est à chaque fois qu'il y a un décor, c'est pour souligner l'état d'esprit du personnage. Ça c'est vraiment très très fort. En conclusion, ce qu'on peut dire de Mongol, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. C'est un film qui va à contre-courant de ce qu'on pourrait attendre d'un film comme ça. Je dis encore, c'est voilà, c'est pas du tout Gengis Khan, Berserker ni rien. Alors j'ai cru voir, enfin j'ai cru comprendre sur internet, mais ça, j'ai un doute quand même que c'est le premier volet d'une trilogie consacrée à Gengis Khan. Le réalisateur Sergei Brodrov, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais il est également scénariste de Est Ouest de Régis Varnier. Et pourquoi prendre un acteur japonais pour incarner Gengis Khan? Eh bien, en fait, tous les peuples d'Asie, les Coréens, les Chinois, les Japonais, réclament tous la paternité du pays d'origine de Gengis Khan, puisqu'il voilà, il y a une légende dans chaque pays qui dit qu'il est allé en Mongolie ensuite.
Oui, il a eu un empire absolument gigantesque, plus grand que celui d'Alexandre le Grand. On retrouve des Mongols de toute façon en Europe de l'Est, en Hongrie. Mm. On en retrouve. Ben, ils ont dominé la Chine puisque ils ont. C'est eux qui ont imposé aux Han d'ailleurs le port de la natte pour dire c'est nous les maîtres.
Gengis Khan a été à l'origine de la lignée justement qui a unifié la Chine. Mm. La Chine est considère Gengis Khan comme un héros national puisque c'est le pays où il y a le plus de Mongols qui vit là-bas, y compris par rapport à la Mongolie elle-même. Voilà, c'est un héros qui était très apprécié dans toute l'Asie. Par contre, au niveau des Iraniens, des Irakiens, non, pas du tout, c'était caca. Hein, c'était « Oh, il nous a massacré, ce connard !» Bon, voilà. Donc, Mongol, c'est un film de Sergei Bodrov avec Tadanobu Asano. Bon, là, c'est à recommander d'urgence. Hein, c'est un film magnifique. Qui ose les partis pris et qui a une vision singulière de la biopic d'un chef de guerre. Donc vraiment, ça vaut le détour. Gros défaut du film, en VF, n'y allez pas. C'est atroce, c'est atroce.
Ce serait pas la première fois. Hein. En tout cas, on n'arrive pas à trouver le si c'est une trilogie ou non. En tout cas,
si, moi je l'ai vu sur le site du Monde, sur plusieurs sites, sur le Wikipédia aussi, mais bon. Ça a été peut-être annoncé comme une trilogie après, mais peut-être qu'ils attendent aussi le résultat que ça va faire, puisque on voit quand même que le film est très ouvertement orienté international. Hein.
D'accord. Petite coupure musicale, histoire de se calmer. 12h46, on va calmer tout le monde avec du New Jazz, Metropolitan Jazz Affair. You know what this life is? C'est le remix Motor City. Vous écoutez FMR, 12h47. We'll be right back. Ouh, je me suis planté, excusez-moi. C'était ça que je voulais envoyer.
On a eu un temporaire avant l'heure.
Oui, un petit peu avorté, excusez-moi.
Ça a l'air mal.
Salaud. C'est le grand moment des sitcoms.
Ah bon ?
Avec du
sport. Ah oui, 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 oui.
Bon, aujourd'hui, bah, ça va être sobre, hein, c'est pareil, c'est comme vous et tout, pas trop de...
Oui, c'est vrai que la semaine dernière, à deux, on a tenu 1h40.
Ouais, ouais, pas mal. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un peu la pédale douce cette semaine. Avec une seule série inédite, mais quelle série inédite ? Il s'agit de 30 Rock, ou 30 Rock, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, 30.
C'est le 30e étage.
S'il y en a, quoi. Alors, en fait, c'est une sitcom qui est diffusée depuis octobre 2006, qui a d'ailleurs raflé quelques Golden Globes, puis quelques Emmy l'année dernière. Et en fait, 30 Rock, c'est ni plus ni moins que l'adresse de l'immeuble du siège new-yorkais de NBC, c'est-à-dire l'une des grosses chaînes de télé américaines. C'est l'abréviation, en fait, de 30 Rockefeller Plaza, qui est l'adresse de la NBC à New York, tout simplement. Alors, c'est une sitcom qui raconte l'histoire, les déboires de Liz Lemon, qui est rédactrice, scénariste en chef d'une émission de télé très populaire qui s'appelle Le Girly Show. Liz Lemon est interprétée par Tina Frey, qui est une actrice qui on ne connaît pas du tout de ce côté-ci de l'Atlantique, mais par contre qui est assez connue de l'autre côté, car elle fait quand même partie des habitués depuis 1997, du Saturday Night Live. Donc les téléspectateurs la connaissent bien, Saturday Night Live, qu'elle a d'ailleurs quitté assez récemment, puisque la série marche assez bien. La série a été reconduite et donc une deuxième saison a été tournée. Donc elle était contrainte d'abandonner le Saturday Night Live. Alors, sitcom oblige, personnage récurrent bien entendu et personnage de poids avec le président de la chaîne, un nouveau président de chaîne qui est nommé et qui commence à foutre le bordel justement quoi, dans les affaires de Liz Lemon. Ce président de chaîne, c'est Jack Donaghy, interprété par Alec Baldwin, qui a d'ailleurs obtenu un Golden Globe pour ce rôle donc de Jack Donaghy. Ce président de chaîne décide donc, de tout au début de la série, la sitcom, de lui imposer un nouvel animateur vedette qui est soi-disant un super comique, Tracy Jordan, interprété par Tracy Morgan, mais qui en fait est un comique qui n'arrive pas du tout à sortir de grosses vannes, ses vannes tombent complètement de travers, à plat, bref, c'est la cata. Et donc,
Est-ce que quelqu'un aurait dit par hasard « nulle part ailleurs »
Non, pas du tout. Donc, c'est la série qui a bien dépoté l'année dernière, hein, qui, à la surprise générale, a raflé pas mal d'Emmy, justement, qui s'est imposée comme la série comique, alors que l'année précédente, on se disait, c'est reparti pour une nouvelle saison de My Name is Earl, qui avait été la révélation de la saison précédente, 30 Rock. Donc, c'est à voir tous les jours, c'est en clair, hein, sur Canal+, du lundi au vendredi, dans la case réservée aux sitcoms, au comic show, c'est du lundi au vendredi, donc tous les jours de 18h, à partir de 18h20 en version multilingue. Alors on va pas gâcher son plaisir quand même, avec en plus des guest stars dans cette première saison, Isabella Rossellini qui joue le rôle de la femme du président, c'est-à-dire d'Alec Baldwin. Il y a également une apparition d'Al Gore, de Jerry Seinfeld, parce que Tina Frey, qui est la créatrice de la série, hein, c'est-à-dire elle interprète le rôle principal de Liz Lemon, mais c'est également la créatrice de la série, c'est elle qui écrit la majeure partie des histoires, et c'est une très bonne copine à Jerry Seinfeld. On dit également d'elle que c'est un Jerry Seinfeld au féminin, ce qui est quand même pas mal, hein, je veux dire, hein, on a vu plus mauvais compliment quand même. Ça s'appelle donc 30 Rock, et c'est diffusé par Canal+, du lundi au vendredi, à partir de 18h20 en clair.
J'ai la bande-annonce américaine.
Eh ben vas-y, tourne.
Thursdays this April, NBC welcomes back some good friends.
Welcome back to that same old place that you laughed about.
All new episodes of all our favorite Thursday night shows. To that, we say,
on va traduire après, hein.
Ah,
Voilà, donc je suppose que vous avez compris.
La pub sur la chaîne NBC, tu vois, quoi.
Ouais, et j'espère que vous avez compris quel était le thème. C'est, oui, ça y est, les scénaristes sont revenus au travail. Toutes les séries du mardi reprennent. Donc il y a Urgence, il y a Scrubs, il y a 30 Rock.
Ouais,
tout
ouais,
revient.
Non, mais parce qu'il faut dire que ce qui est assez intéressant dans 30 Rock, c'est que, c'est, on va pas dire, c'est la énième, hein, parce que bon, ben, les histoires sur les dessous de la télévision, il y en a bien eu récemment. Des séries
qui
essaient d'aborder le thème,
planté.
Mais ça n'a pas trop marché. Il faut remonter à quand même vachement loin pour avoir une série qui parle des dessous de la télé, qui a bien marché. C'est Murphy Brown en l'occurrence. Hein. Après, ça a été toujours plus ou moins la cata, ou pas loin. Hein. C'est-à-dire une saison de tournée, puis après, bon, bah, des affections du public. Alors que 30 Rock, là, a l'air de quand même bien marcher. Mais dans un registre quand même assez spécifique, hein, qui est un petit peu le thème sitcom. Parlons d'autre chose. J'ai fait l'impasse la semaine dernière, tu vois, et on a quand même tenu 1h40. Et là, je me suis dit, je vais faire sobre. Donc, il va falloir quand même que je vous parle de Jardin Secret, actuellement diffusé par TF1, donc visible par tout le monde, pas trop tard, le lundi soir, 22h30. Voilà,
et c'est marrant parce qu'il y a, quand j'en parle à des gens, il y a tout le monde qui me parle de Jardin Secret, et puis moi, je suis très fier de leur dire, bah, du sport en a parlé à notre émission l'année dernière.
Absolument.
Est-ce qu'il
absolument.
Faut être fier?
Il faut être très fier, d'ailleurs.
Vas-y.
On en est à la saison 2, donc... vu que lundi dernier, le dernier épisode... Alors c'est con parce qu'il les passe quand même en rafale, hein, par les séries de 3 épisodes. C'est un peu long quand même. Même si c'est vraiment prenant du début jusqu'à la fin, il faut quand même dire que 3 épisodes à la suite... Ça fait un peu chaud et donc le dernier épisode de lundi dernier, tard à partir de minuit et des poussières, c'était le premier épisode de la saison 2. Premier épisode dans lequel, eh bien, vers la fin de l'épisode, Claire Van Kempen, celle dont le mari meurt dans la piscine lors du premier épisode de la saison 1, hein, il plonge dans la piscine mais il n'y a pas d'eau dans la piscine. Donc, donc forcément ça le fait pas, tu vois. En plus, c'était un petit peu bourré. Elle découvre au fur et à mesure de la saison 1 que son mari en fait était homosexuel, qu'il la trompait et tout, et que en fait il avait dépensé pas mal de leur argent commun. Et donc dans le premier épisode de la saison 2, hein, diffusé tard lundi dernier, bien Claire Van Kempen se prend un coup de batte de baseball. Derrière la tête, qu'il a fait également tomber dans la piscine, mais ce coup-ci avec de l'eau.
Tiens, les accessoires sont bossés.
Bah non, mais c'est la piscine de la maison. Donc, bon, forcément, quoi. Et donc, dans la rafale des 3 épisodes qui seront diffusés lundi prochain à 22h30 sur TF1, dans le premier épisode. Alors c'est ça qui est marrant, je vais vous lire juste les comptes rendus qui sont parus dans la presse, hein, comme ça fait bien soap et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Dans le deuxième épisode, donc, sortie du coma, Claire est interrogée par la police. Anouk prépare...
Qui a rempli la piscine?
Anouk prépare l'anniversaire de la fille de Tom. Martin est confronté à Tippy One, qui est enceinte. Dans l'épisode suivant, le troisième de la deuxième saison, Martin ne touche plus Cheryl depuis qu'elle est enceinte. Et ouais, rappelez-vous le coup de dans la première saison, Cheryl qui est obligée de faire une gâterie à son mec pour recueillir son sperme, oui, pour pouvoir le faire analyser, savoir si il est assez vaillant pour pouvoir lui faire un petit enfant, tu vois.
Excuse-moi.
Dans le dernier épisode, donc diffusé lundi prochain, de ce magnifique soap hollandais qui est Jardin Secret, Cheryl, interprétée donc par Linda De Mol, la sœur de John De Mol et créatrice de la série, Cheryl est furieuse que Martin ait acheté une nouvelle voiture avec l'argent gagné au noir. Enfin, Jardin Secret, ça reste quand même le seul soap et la seule série dans laquelle j'ai pu voir un bon 69 en fauteuil roulant. Ça reste à découvrir encore dans cette saison 2. Alors ne gâtez pas votre plaisir.
Oh,
Jardin Secret, c'est sur TF1 lundi prochain à 22h30. Et on espère que TF1 aura l'excellente idée, dans la continuité, de nous diffuser la suite, à savoir la saison 3 qui a été tournée, mais qui est encore inédite en France. Allez, vite fait. Non, pas trop, parce que ça va faire un peu long. Alors, vous préparez les sandwichs, la bière, les pizzas et tout ça. Parce que demain, vous bougez pas de chez vous. De toute façon, demain, il va pleuvoir de nouveau. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Profitez-en aujourd'hui, parce que demain, là, ça va être
râpé. Demain, c'est journée NEM, alors.
Ça tombera bien, de toute façon. NEM.
C'est gras.
Sifi vous propose une journée pratiquement entière. Star Trek.
Oh, je m'en doutais.
Ouais, parce que ça fait un peu plus de 40 ans maintenant. Bon, c'était en octobre 2006 qu'on fêtait le 40e anniversaire. Ça, c'est de la réaction, c'est bien. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Alors, ça commence donc demain matin à 10h50 par Star Trek, le film. Le seul, le vrai.
Le tout premier.
Le Robert Wise de 78-79. Hein, donc, pas une bouse, quoi, tu vois, un bon film. On fait une petite pause avec une autre série et ça reprend à 15h20 demain avec des épisodes. Des épisodes doubles, en fait, deux épisodes à chaque fois d'une des séries dérivées de Star Trek. Ça commence à 15h20 par Deep Space Nine avec deux épisodes. S'appelle L'émissaire. À 17h, c'est Voyager avec Le Pourvoyeur. Alors, chaque fois 1 et 2. À 18h45, Enterprise en avant-toute. Ça, c'est les deux premiers épisodes de la saga Enterprise. Hein,
Scott Bakula. Qui se déroule avant et qui donc est toute récente.
Ouais, avant Captain Kirk, quoi. C'est-à-dire les premiers, là.
Les pionniers.
Ouais, presque, quoi. Maintenant, il y en a eu d'autres avant. Et ouais. Et dans le générique, tu le vois, de Enterprise, tu le vois qu'il y en a eu d'autres avant encore. Ouais. À 20h20, Star Trek, ou presque. Un épisode revu et corrigé par Cad et Olivier.
Oh punaise!
À 20h45, Star Trek Voyager. Et ça, c'est dans la continuité de la diffusion de Voyager en ce moment sur Sci-Fi tous les dimanches. Hein, donc avec le dernier épisode de la saison 4, Espoir et Peur, suivi des deux premiers épisodes de la saison 5 de Voyager, Les Ombres de la Nuit et Assimilation. Ouais, avec Kate Mulgrew. Ouais. Une voix, tu vois, genre, ça va, quoi. Elle est capitaine, tu vois, quoi. c'est elle la patronne, tu vois. Et à 23h10, Star Trek Nemesis. Star Trek Nemesis, donc, avec l'équipage habituel, à savoir celui de Next Generation, Stewart, Frakes, Brent Spiner et LeVar Burton. Kunta Kinte. Mets-moi le morceau, là.
Fire, she's blazing up to the sun, shopping red on everyone but your blue. Oh, I'm better than I used to be. Finally got up off my knees. I can't save you.
du sport, tu des annonces?
Ah ouais, c'est Minnie Driver, donc dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qui jouait l'un des rôles principaux dans cette excellente série The Riches avec Eddie Izzard. Et qui là, bah, va sortir prochainement un album, ce qu'on sait pas trop. Enfin, on connaît la carrière un petit peu d'actrice de Minnie Driver, hein, c'est-à-dire Will Hunting.
Oui, surtout Will Hunting, ouais. Et
d'autres, hein, c'est marqué.
Slippers, ouais. J'ai vu sur le CD là.
Et on connaît un petit peu moins le fait que bon, bah, elle est anglaise, hein, je crois qu'elle est londonienne, mais elle était chanteuse. Elle l'a fait. Bah, à la bonne époque, hein, du début des années 80, elle jouait dans son groupe, chanteuse et tout, voilà, comme pas mal de gens. Et après, elle a plus ou moins émigré pour faire cette carrière d'actrice de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Et là, c'est un disque qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, mais qui sort dans un mois. Et donc, quelques morceaux ont été enregistrés avec Ryan Adams. Ah ouais! Et un morceau avec Liz Phair, voilà, l'album s'appelle Six Stories, mais il ne sort que dans un mois, alors profitez-en. Hein. Un petit peu de western à présent. Et ouais, Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite sélection de western, parce que c'est vrai que il y en a pas tant que ça sur les différentes chaînes du câble ou du satellite.
Ah oui, au passage, il y a un épisodial qui avait été diffusé sur France 2 la semaine dernière.
Ouais.
La bande-annonce était horrible.
Non, sur 3.
Sur la 3 ? Non, la 2, c'était dimanche soir. Et la bande-annonce était à chier parce qu'ils avaient foutu, en plus c'est un western crépusculaire, donc voilà, et ils avaient foutu une musique de la guitare genre ding ding ding
ding ding, et oui, Clint Eastwood,
n'importe quoi, c'est...
Enfin bref. Enfin ce soir, y'a que dalle, rien, pas de western. Tu vois, ça commence bien. Demain soir, sur Cinéma Classique à 22h15, à l'ombre des potences de Nicolas Rey, celui-là il est pas mal, avec James Cagney, ouais. Et Vivek Alinfors et John Derek, qui bien des années plus tard trouva beau Derek. Ouais, laisse tomber.
L'actrice avec les yeux qui sentent le cul.
Ouais, elle est corail dans les cheveux. Lundi, en western, on a sur NT1 à Mort-ou-Vif à 20h45 le Sam Raimi qui est vraiment bien. Avec Sharon Stone, DiCaprio, Russell Crowe, pas encore connu.
Gene Hackman. Ouais.
Grand Gene Hackman, excellent Gene Hackman. De toute façon, qui joue également dans Impitoyable, qui est passé aussi il y a pas si longtemps que ça,
oui.
Cette semaine à la télé. Et lundi prochain également sur TCM à 20h45, le Trésor du Pendu avec Robert Taylor, la Balance, et Richard Widmark, impeccable. C'est un John Sturges de 58, donc sur TCM lundi prochain à 20h45. Et il y a également.
Je crois qu'il y a un documentaire d'ailleurs, parce que ils font une série là sur les films du pré-code, et il y a aussi des documentaires après les films, très bien foutus sur TCM.
Oui.
Je crois qu'ils vont faire justement un truc là, sur une série sur western.
Oui. Et je peux pas faire quand même une programmation sans vous parler de mes chouchous favoris absolus sur TMC. Carrément, ils ont mis les deux l'un après l'autre à 20h45 sur TMC. Lundi soir, l'affaire Van Aken de Michael Horowitz avec Steven Seagal.
Mais quel rapport avec le western ?
Et Jeffrey Pierce. Bah, c'est pour ceux qui aiment pas le western. Et à 22h30, mort subite de Peter Iams avec Powers Booth, bien sûr. Et Jean-Claude Van Damme.
Mais c'était chouchou ça ?
Mais oui, bien sûr, absolument.
Il y en a qui n'ont pas
mardi,
peur dans cette émission. Hein.
Mardi, sur Cinéma Classique à 20h45, L'Homme de la Loi de Michael Winner avec Brut Lancaster, Robert Ryan et Luigi Cobb. Jeudi, parce que mercredi, il n'y a que dalle. Jeudi, sur NT1 à 20h45, ah bah ça c'est pas du western, mais enfin bon, si, ça perpétue la tradition westernienne dans le cinéma américain. On va dire.
Je m'inquiète.
C'est la série des Delta Force. Avec. À
20h45. Là, il est improbable.
À 20h45 sur NT1. Delta Force. Le premier, le seul, l'original, l'unique de Menahem Golan de 85. Avec Chuck Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Anna Shigula, Shelley Winters. C'est pas du casting en béton, ça. Et suivi
non.
À 23h de Shelley Winters, attends, un ou deux, une ou deux statuettes elle a gagné cette nana quoi. Shelley Winters. une, de toute façon. Ouais. Donc, non, attends, attends.
With acclaimed monde, hein. Official Oscars, Charlie Winters.
Ouais, et à 23h, Delta Force 2 du fils, Aaron, avec Billy Drago. Ouais, Billy Drago, quoi, allez. Et vendredi, sur la chaîne Action, un vrai classique du western. À 21h, les Desperados de Charles Vidor, de 43, avec Randolph Scott, Claire Trevor et Glenn Ford, jeune. Ça, c'est pour les westerns. Ah ouais, en 43, il était jeune, tu vois. C'est la même période où il joue dans l'excellent film de Fritz Lang, là, Règlement de compte, là, où il
oui,
est magnifique.
Oui, fabuleux.
Ouais, ouais.
Et l'un
là, des...
Ouais,
des potes, quoi, grave. Où ils offrent une peignée à Charles Coburn, quoi, que tu le crois pas à la fin du film. Enfin bref, quoi. Du Fritz Lang, quoi. La semaine sur Cinéfix à présent. Ce soir, ça commence avec un film qui est excellent. Mais alors là, je te jure, quoi.
C'est de la SF, hein ?
Ouais, ouais, Cinéfix, pas forcément. Pas,
pas forcément. Hein. Alors, hier, il y avait, Orgasmo, Captain Orgasmo. Ouais. C'était sur FX.
Alors c'est un film qui est récent.
Non, qui est assez vieux. De 1964, c'est Le Puits et la Pendule. Alors pour ceux qui adorent comme moi Edgar Allan Poe, c'est issu bien entendu d'une des histoires extraordinaires. Et c'est filmé par Alexandre Astruc en 64 avec Maurice Ronet dans le rôle titre. Et je peux vous dire, moi j'ai vu il y a très 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 longtemps, hein, c'est en noir et blanc, mais ça te troue le cul, quoi. Et bon, de toute façon l'histoire originale déjà elle te troue le cul. Et bon, après le film est vachement bien réalisé. C'est ce soir donc sur Cinéfix à 21h. Edgar Allan Poe qui est natif de Baltimore, bien entendu.
J'étais pas sûr.
Si, Baltimore. Donc, demain soir sur Cinéfix, alors c'est toujours à 21h, de toute façon, demain soir le classique également de Russell Mulcahy, le film qu'il a fait connaître, Razorback, en 84. Lundi, The End of Violence de Wim Wenders avec Bill Pullman, Andy McDowell et toute la bande.
Gabriel Byrne.
Si vous aimez les caméras de surveillance, n'hésitez pas.
Mardi, Visiteur extraterrestre, de film de 93 de Rob Lieberman avec le casting en béton, hein, Robert Patrick, Craig Schaeffer, Peter Berg et James Garner. On fait pas mieux, non?
Ah ouais.
Mercredi, c'est un peu ciné-club sur Cinéfix avec un film anglais de 1945, conjointement réalisé par Alexandre Cavalcanti, Basil Dirden, Robert Hammer et Charles Crichton. Il y aura quatre réalisateurs quand même pour au cœur de la nuit avec Mervyn Jones, Michael Redgrave et Marie Merrill, un film classique à l'anglaise dans lequel des personnages se réunissent et racontent chacun à leur tour une histoire un petit peu horrifique qui leur est arrivée et donc c'est mis en image et tout avec des flashbacks et tout c'est pas mal, ça vaut le coup. Jeudi prochain à 21h toujours sur Cinéfix, Circuitry Men de Stephen Lovey de 90 avec Jim Metzler et Dana Wheeler Nicholson. Ça c'est pas d'improbable, mon gars, c'est une histoire de d'android. Et vendredi prochain sur Cinéfix, The Room, un thriller belge très récent, 2006, de Gilles Daout avec Pascal Duquesne dans le rôle principal à 21h sur Cinéfix.
Voilà, du sport en train de tout tasser, donc je pense qu'on passe au générique de fin. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission numéro 154 en cours de route ?
Déjà ?
Oh là !
Donc,
je
vais essayer de relire mes notes. Alors, c'était une émission réalisée à l'aide d'un ordinateur portable. Donc, si l'émission...
C'est pas la première.
Si les émissions vous a semblé poussive, c'est normal. Xavier doit s'habituer à ses raccourcis clavier personnalisés. Nous avons eu un top horaire en avance, suivi d'un top horaire à l'heure, du shoujo avec des arcs-en-ciel et des yeux qui brillent, de la BD indienne, du film mongol, du Dofus puissance 8, bordel de cul, l'inévitable résumé de Jardin Secret, où il est question de 69 en fauteuil roulant, de gâteries faites par des femmes enceintes et de piscine vide, du Star Trek, alors c'est quoi, c'est coup de tatiqué, parce que c'est ça.
Il y a un micro ici, douce.
Un cri de guerre.
Mais non, mais bon, Livar Burton, il est connu pour avoir joué dans la série Roots.
Ah, mais je pensais que c'était un signe de reconnaissance des Klingons ou je sais pas quoi.
Non, c'est pour ça qu'on dit Kunta Kinte.
D'accord. On a eu...
Faut tout leur expliquer.
Ah ben... Bah...
Désolé.
Ah, c'est jeune.
Du western versus JCVD versus Steven Seagal versus Chuck Norris et une semaine sur Cinéfix qui troue le cul. Voilà.
Non d'un festival BD sur Toulouse ce week-end, ils ont manqué tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de la radio. Vous tapez Supplément Week-end dans Google, on est en premier. Tapez Supplément Week-end Radio FMR, vous êtes sûr de tomber dessus. Vous allez sur supplementweekend.tk, vous tombez dessus. Vous tapez radio-fmr.net et vous avez l'émission de la semaine dernière de Jean-Ly et la chronique de tout à l'heure de Thomas. Bref, tout plein de choses. En attendant la suite des programmes avec votre cahier sportif à 15h du reggae avec Zarma Farai, c'est à 17h de la bonne découverte musicale avec ça, c'est de la bonne viande. 18h, Big Bang. 19h, on entame les mix complètement fabuleux de Happy World. 20h, la Stereo Experience avec DJ Jésus. 21h30, Neuf Love, c'est du Two Step. Et à 23h, retour au rock, retour au live avec le potager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye, à plus.
Ciao.
Et on vous laisse avec du sein.